rendez-vous.
Rendez-vous?
Qu'est-ce que vous faites ce soir?
Ce soir?
Oui.
Rendez-vous?
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous. Soirée spéciale ce soir après le double concert d'IAM et de Lee Fields. Le NRV, c'est exceptionnellement 23h15 minuit. Nuit noire ce soir, nuit polar à l'avant-veille du festival Quai du Polar à Lyon avec trois invités. Hervé Lecor pour son roman Prendre les loups pour des chiens aux éditions Rivage. Sortie de prison pour Franck, 25 ans, qui se retrouve accueilli par une famille de désaxés. Ça promet. Hervé Lecor, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Ingrid Astier pour Haute Voltige chez Gallimard, une nouvelle plongée dans l'histoire du grand banditisme, comme toujours. Bonsoir à vous.
Bonsoir Laurent Goumard.
Et puis Stéphane Père devrait nous rejoindre pour Élastique Nègre chez Fleuve Noir Édition, premier roman direction la Guadeloupe avec le corps d'une femme blanche retrouvée dans la mangrove. Benoît Lagane est avec moi ce soir exceptionnellement. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à tous. Bonsoir Laurent.
Le NRV Noir c'est Noir, ça peut commencer.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Alors cette année, 13e édition, il y aura un focus sur le fait divers, sur le pouvoir, la politique, les 90 ans de la collection du masque. Comment chacun êtes-vous entré dans le monde du polar ? Honneur au dernier, Stéphane Père, vous êtes journaliste à France Info, spécialisé entre autres dans le fait divers et dans les questions de justice. À 45 ans, vous signez le premier roman. Qu'est-ce qui a retardé le passage à l'écriture d'abord ?
C'est vrai que c'est un retard, peut-être, je sais pas... J'ai l'envie d'écrire depuis un certain temps, on va dire. Puis c'est pas qu'une envie, j'écris, mais de manière plus confidentielle. Après, il y a le besoin et la nécessité d'élever tout ça au niveau du roman, et ça c'est autre chose. C'est un grand mouvement interne qui se met en place, et puis qui est facilité aussi par un dialogue et des navettes avec un éditeur.
Ouais.
En l'occurrence, Fleuve, avec qui on a pu effectivement entamer une discussion assez tôt finalement dans la genèse de ce roman.
C'est-à-dire, vous lui avez présenté un synopsis au départ, c'est ça ?
J'ai présenté la première partie du livre, on va dire le premier tiers, qui était une sorte d'ébauche et qui était née d'une nouvelle. J'écris aucun bouquin pour l'instant, mais j'écrivais pas mal de nouvelles. Et de cette nouvelle s'est nouée l'idée de créer une intrigue un peu plus policière, en tout cas dans le cadre du roman noir. Et il y a eu un contact, presque un hasard d'une rencontre, ce qui arrive parfois dans les romans aussi.
Bien sûr.
Et donc on a pu, avec quelqu'un de chez Fleuve, qui était quelqu'un que je fréquentais par ailleurs, sans savoir qu'il aurait pu m'aider à aller vers ça, et on a pu débuter cette aventure, effectivement.
Ingrid Astier, vous avez reçu le prix du jeune écrivain, c'était en 99. Un parcours, vous, pas uniquement dans le polar, mais vous vous illustrez régulièrement dans ce domaine depuis 2010 dans la série Noire chez Gallimard. Quand vous avez commencé, quelle idée du polar vouliez-vous défendre ?
Je voulais rien défendre comme idée. Ce que j'avais envie de défendre, c'était l'imaginaire. C'est moi, si j'écris, c'est parce que j'ai un grand bonheur à bâtir des mondes, à me réfugier dans ces mondes, parce que j'ai très vite compris que le monde tel qu'il est n'est pas suffisant, et que quand on le rêvait, quand il y avait cette passation du rêve par le roman, c'était quand même une grâce qu'on créait à la fois avec soi-même et avec le lecteur.
Mais à quel moment vous avez basculé dans le roman noir ? Parce qu'il n'y a pas eu que ça dans votre parcours.
Je dirais pas que non, j'ai l'impression d'avoir rien trahi depuis le prix du jeune écrivain en 99, parce que c'était déjà un héros qui était torturé, qui avait des problèmes d'identité, qui était fracturé. Donc cette question de la fracture était importante. Et puis j'ai très vite compris qu'à travers le roman noir, on s'intéressait à l'essentiel, donc la mort, la souffrance, la folie, l'amour, c'était un terreau naturel, vous voyez.
Hervé Lecor, vous avez commencé au début des années 90. Quel était le contexte du polar à l'époque ?
Le contexte du polar, c'était ce qu'on appelait le néo-polar, c'est-à-dire le polar engagé.
Depuis polar, Manchette ?
Polaroid, depuis avec Manchette comme pape. Et c'était un peu ça le décor, c'était des romans très courts, souvent, très très... que je qualifierais aussi de vite lus, et parfois, il faut le reconnaître, vite oubliés.
Ah ouais.
C'était quand même un peu ça l'ambiance. Il y avait énormément d'auteurs, il y avait pas mal de collections. Et je me suis inscrit, moi, tout naturellement là-dedans. C'est-à-dire que j'avais envie de faire comme les copains. Avec l'idée, l'envie plus profonde quand même de d'écrire, de raconter des histoires. Parce que j'en avais lu de très fortes. Vous parliez de Manchette, mais je m'étais assez vite, un peu sur le tard quand même, mais je m'étais mis à découvrir les Américains, Dashiell Hammett, Horace McCoy, ou William Irish aussi, pour ce qui est du suspense. Et j'avais trouvé ça fascinant de par la la violence, la tension dramatique et narrative de ces bouquins-là. Alors, j'avais pas du tout, j'avais une formation littéraire très classique.
Vous étiez prof aussi?
J'étais prof et j'avais une formation littéraire, ma foi, assez banale. J'avais jamais lu de polar avant 22, 23 ans. C'est un ami qui m'avait mis la manchette entre les mains et j'en suis jamais sorti.
Et vous, Ingrid Astier, vous aviez quelle culture du polar? Du côté des États-Unis, du côté de la France, polar politique?
Moi, je trouve qu'on avait des auteurs extraordinaires. Moi, j'étais nourrie à Jacques Prisot. J'ai vraiment beaucoup d'amour pour Jacques Prisot. Parce que c'est une histoire et une langue. Et moi, j'ai besoin d'habiter les deux. J'ai pas envie qu'on me balade juste dans un univers si la langue ne suit pas. Et c'est très important qu'il y ait cette séduction extraordinaire. Vous voyez, c'est quand quelqu'un vous fait rêver avec les mots, je trouve ça presque encore plus fort qu'avec juste une histoire, parce que sinon aller dans un café un peu populaire et des histoires vous allez en entendre, donc voilà, moi j'ai besoin de rêver avec la langue. Alors il y avait Jacques Prisot je vais vous dire quelque chose peut-être de surprenant, mais pour moi il y a aussi des poètes.
Ouais.
Chez qui il y a vraiment des ambiances noires extraordinaires, comme Henri Michaux.
Ah bah oui.
Voilà, c'est chez Henri Michaux. Moi, je trouve que on a vraiment des canevas comme ça noirs qui sont extraordinaires. Et chez Dion, 37 de... C'est, pour moi, c'est un roman qui est à mi-chemin, finalement, entre le roman et le roman noir. Donc, j'aime bien qu'on casse les frontières aussi.
Mais c'est ce que vous faites systématiquement, d'ailleurs, dans
exactement,
vos propres textes.
Voilà, moi, j'ai besoin que ça respire. Je ne suis pas pour mettre les romans en boîte.
De votre côté, Stéphane Peyre, cette connaissance du roman noir, elle est passée par quels auteurs?
J'avoue ne pas avoir une très bonne connaissance du roman noir, tout simplement, parce que je ne suis pas un grand lecteur de romans noirs et de polars, particulièrement.
Vous êtes plus amateur de faits divers, tout simplement?
Non, je suis amateur de littérature en général, et c'est vrai que moi, je dirais que mes livres de chevet, c'est pas forcément des romans noirs et des polars. Aujourd'hui, je m'exprime dans ce mode-là, mais c'est vrai que mes auteurs de chevet, c'est plutôt des auteurs très éclectiques, comme Jules Renard ou Nabokov ou William Faulkner. William Faulkner, par exemple, c'est quelqu'un qui est habité aussi par des intrigues policières à certains moments où la justice a son rôle, où les personnages sont confrontés à la mort et à des cadavres.
Benoît Lagan.
Oui, une question, vous êtes quand même journaliste à France Info, est-ce que le passage à l'écriture vers le roman, c'est aussi une frustration de journaliste de vouloir aller vers la fiction?
C'est d'abord une grande liberté avant d'être une frustration. L'écriture, comme vous l'avez dit, c'est ça, c'est avant tout libérer cet imaginaire-là. C'est l'antithèse de France Info. France Info, c'est un de mes rédacteurs en chef m'avait dit une fois que France Info, c'était l'école de la frustration. Je pense que ça peut s'adapter à d'autres choses. Mais en tout cas, l'école de la frustration, c'est vrai que nous, on est dans un mode de concision, d'économie des mots, de phrases extrêmement syncopées avec beaucoup de fautes de français souvent. Et là, moi, j'ai une grande liberté, une vraie nécessité aussi à écrire sur un autre mode et avec la capacité à justement sortir de ce formatage pour aller vers un déformatage et là n'avoir aucun frein justement dans l'écriture et la narration. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est une soupape pour moi justement par rapport à ce que je fais dans le journalisme.
Quai du Polar, ça se passe à Lyon et ce n'est pas un hasard. Hein, si les cinéastes de Lyon se sont intéressés à la série noire, je pense à Bertrand Tavernier et Olivier Marchal. Vous, Hervé Lecor, vous êtes identifié à Bordeaux. Qu'est-ce que cette ville jupéiste vous permet de dire aujourd'hui? Vous n'êtes pas jupéiste, on le sait, vous aviez soutenu Mélenchon aux précédentes élections. Mais qu'est-ce que Bordeaux, comme terreau aujourd'hui, comme territoire, vous permet de dire dans le monde du polar?
Ah, rien de particulier. C'est Bordeaux parce que j'y suis né, j'y travaille et que...
Non mais enfin, c'est pas le Bordeaux qu'on connaît quand même.
Ouais, évidemment, mais je ne cherche pas à dire particulièrement quelque chose sur Bordeaux. C'est juste un décor pour moi et un décor pratique. Je serais marseillais, rennais ou parisien, ça se passerait dans ces villes respectivement. Pour moi, c'est pas du tout un problème. La seule chose que...
Vous pensez que le territoire ne vient pas contaminer ce que l'on est en train d'écrire?
Non. Pour ma part, non. Le décor peut avoir à un moment donné son utilité géographique pour faire, pour décrire des itinéraires ou des trajectoires de personnages, mais sans plus. En tout cas, pour ma part.
Ouais.
Non, ce à quoi j'étais confronté pour mon premier roman, La série noire en 90, c'est que les gens à Bordeaux avaient été très très surpris qu'une série noire puisse être écrite dans leur ville.
Mais ça, bien ça sûr, les a surpris.
C'est-à-dire qu'à mon corps défendant, alors que je ne voulais pas donner une quelconque vision, que je ne sais pas moi, oppositionnelle ou marginale
non,
à la ville,
bien sûr.
Les gens ont pris ce roman comme une espèce de surprise, pas forcément agréable, peu importe. mais voilà, c'était ça. Mais
maintenant, ils sont habitués.
Oui, ouais, maintenant, on ne fait même plus la remarque.
Juppé vous lit.
Pardon?
Juppé vous lit.
Ah, je sais pas, et puis je m'en fiche en plus. Mais non, je me situe pas du tout par rapport à ça. S'il y a des choses à dire sur Bordeaux, sur la ville, sur son économie, sa sociologie, c'est pas forcément dans les romans que j'ai envie de le dire.
Ingrid Astier?
En fait, j'ai grandi dans une maison qui était vraiment au milieu de nulle part, où il fallait inventer la ville en grimpant en haut des arbres. C'est là où on apercevait les premiers clochers. Et ça m'a marqué définitivement parce que j'ai compris que si je voulais avoir une sorte de respiration du monde, bah, il fallait l'inventer, ce monde. Et donc, le jour où je suis arrivée à Paris pour mes études, quand j'avais 17 ans et demi, là, ça a été un énorme choc, vraiment. Et j'ai compris là que si je voulais survivre, il fallait que je retrouve tout le plaisir que j'avais à jouer dans les champs, avec mon arc, avec mon frère. Il fallait que je retrouve en fait ce terreau comme ça, très fort, à la fois sportif et lié à l'imaginaire. Il fallait le trouver dans Paris. Donc j'ai commencé avec la Seine, parce que finalement, c'est ce qui avait de plus naturel.
Les fleurs chez vous, ouais.
C'est ce qui avait de plus naturel, et parce que j'adore les océans. Enfin, vraiment, tout ce qu'il y a à l'eau, il y aurait une marque. Je pourrais écrire 600 pages sur une mare, je pense. Et ça a été le début d'une réconciliation avec Paris. Je me suis dit, mais c'est un formidable terrain de jeu. Donc j'ai commencé avec des enfers, avec Paris vu depuis le fleuve. Donc depuis ce lieu où il y avait des pêcheurs, des saules pleureurs, des faucons pèlerins. Enfin voilà, il y avait de quoi retrouver aussi la nature en plein Paris. Et puis finalement, Haute Voltige, c'est très naturel parce qu'après avoir fait Paris depuis la Seine, ben, c'est Paris depuis les toits.
Et de votre côté, la Guadeloupe, Stéphane Père, vous n'êtes pas originaire de la Guadeloupe, hein, mais vous avez des attaches là-bas.
Oui,
Qu'est-ce que vous racontez de la Guadeloupe aujourd'hui à travers le polar? Pourquoi avoir choisi ce territoire?
Avant que je vous le dise, je suis sensible à ce que vient de dire Hervé Lecor. Je trouve qu'effectivement, le territoire a une importance, mais ce qu'on raconte est censé être plus universel que ça. Et c'est vrai que...
Je ne dis pas qu'il faut tenir une chronique locale.
Non, mais souvent, le territoire peut happer un peu le récit, et puis on s'identifiait. Par exemple, moi, c'est vrai que j'écris sur... une zone plutôt que la Guadeloupe, mais la zone des Caraïbes, évidemment, c'est tout de suite ça qui saute tout de suite aux yeux. Or, je parle par exemple du trafic de drogue dans cette zone-là. Ça pourrait se passer à Sevran ou dans les faubourgs de Moscou. Ce serait pareil, de mon point de vue. On raconte les mêmes personnages, les mêmes principes de...
Mais ça n'implique pas une langue particulière, quand même?
Alors oui. Non, je dis pas que je suis pas ancré, hein, sur ce territoire-là. Ça m'intéressait de l'explorer. Mais ce que je voulais dire en préambule, c'est ça. C'est que les personnages traversent un peu aussi le territoire autrement. Et donc, moi, mon territoire, effectivement, par mes attaches, parce que j'ai pas grandi, mais j'ai, disons, séjourné, enfant. On capte beaucoup de choses quand on est enfant, des images, des sons, des odeurs, etc.
Le monde de la drogue.
Non, pas enfant. Pas enfant. Même si j'ai dû croiser des gens qui peut-être étaient hallucinés par des flèches de drogue, mais je m'en rendais pas encore compte. Plus tard, par contre, adulte, en tant que plus, on va dire, touriste, même si j'étais de temps en temps en famille, et puis journaliste, puisque j'y suis allé aussi en tant que journaliste. Effectivement, j'ai capté d'autres choses de ce territoire-là, et je le connais parce que ma mère est originaire de là-bas, parce que la Guadeloupe, c'est une langue, c'est une culture, une identité très forte, parce qu'on est sur une île, comme toutes les îles, il y a quelque chose de tout de suite identitaire très fort et de précis, je dirais, qui se détache. Et ça m'intéressait de plonger là-dedans, quoi.
France Inter, il est 23h30, nous interrompons notre programme quelques instants pour un message alerte enlèvement.
Vicente, 5 ans et demi, 1 mètre environ, cheveux châtain courts, yeux marrons, porteur de lunettes de vue, vêtu d'un haut de pyjama avec logo Cars et d'un caleçon bleu, a été enlevé le 29 mars 2017 à Clermont-Ferrand par son père Jason Lopez, individu de type méditerranéen, yeux marrons, cheveux courts noirs et porteur d'une barbe courte. Il circulerait dans un véhicule BMW ou Mercedes de couleur noire dont l'immatriculation débuterait par les lettres VP ou VB et comportant en fin de plaque les chiffres 63 du département du Puy-de-Dôme. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr.
Et Laurent Goumard, il revient pour le nouveau rendez-vous.
Tout de suite, on plonge, on revient en 2017. C'est l'année des filles dans la musique. Après Fishback, Juliette Armanet, Cléa Vincent, après Junior. Une nouvelle voix, celle de Clara Luciani ce soir dans le NRV. Comme toi, c'est signé Clara Luciani, une ex-choriste de La Femme. Elle vient de sortir son premier EP, Monstre d'amour.
Le nouveau rendez-vous.
Il m'a dit un rendez-vous.
Laurent Goumard.
Et c'est où le rendez-vous ?
Sur France Inter.
Et la série noire continue ce soir au NRV parce que vendredi, nos trois invités romanciers, Hervé Lecor, Ingrid Astier et Stéphane Peyre, ont tous rendez-vous à Quai du Polar à Lyon, 13e édition. Et vous, Hervé Lecor, vous allez, dans le cadre de ce festival, présenter un film de Willem Friedkin, Killer Joe, 2011. La raison de ce choix, et d'abord de quoi ça parle ?
Ça parle d'une famille plutôt marginale, on pourrait
moins
la qualifier.
Comme dans votre roman.
On pourrait la qualifier comme ça, qui se trouve mêlée à une affaire de drogue. C'est le jeune homme de la famille qui est impliqué là-dedans, et il a besoin de faire éliminer ses adversaires. Et le seul tueur sur qui il tombe est un policier. Et ce policier est un type extrêmement dangereux, pervers, tordu. Et il va mettre sous son emprise l'ensemble de la famille. Ces gens vivent dans un mobil-home. Et il y a quelque chose, par exemple, qui est très impressionnant dans ce film. Il y a devant le mobil-home, il y a un chien absolument furieux qui se déchaîne chaque fois que quelqu'un arrive. Et ça, Friedkin insiste bien sur ça. Et la seule personne devant laquelle il n'aboie pas, c'est ce fameux Killer Joe, ce policier qui est interprété par Matthew McConaughey. Et là, le chien se tait, se couche littéralement.
Donc ça crée une sorte de...
Ouais. Et déjà, s'il est capable, hein, pratiquement par espèce de magie personnelle, de soumettre ce chien, on imagine bien qu'il va aussi soumettre, alors de façon très très dérangeante, c'est un film très dérangeant, toute cette espèce de tribu toxique. Et j'adore ce film, il est vraiment... C'en est presque gênant de regarder ce film, parce qu'il y a des scènes très très... très compliqué, qui ont dû être assez compliqués à tourner, je pense, pour les comédiens. En tout cas, qui je trouve compliqué à regarder pour le spectateur. J'en ai pourtant vu d'autres.
Et mais vous là, pensez à quoi, par exemple?
Je pense à une scène avec de simulation d'acte sexuel avec un manchon de poulet. De dinde.
D'accord. Oui, c'est vrai que c'est assez troublant.
Ça, on parlait de Faulkner tout à l'heure et ça rappelle un petit peu l'histoire de l'épine maïs. En plus, la scène est très longue. Ça dure. On se demande vraiment jusqu'où les personnages vont aller, et là, j'avoue, c'est une espèce de scène, comme ça, on regarde ce truc, c'est tout à fait... c'est dérangeant, et moi y compris. Et j'espère bien que ça va déranger les spectateurs qui le verront à Lyon.
Et cet effet de dérangement, de saisissement, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez aussi travailler dans votre propre littérature, Hervé Lecor ?
Pas forcément. Je ne cherche pas à épater la galerie ou à effrayer le bourgeois ou je sais pas comment le dire. C'est pas du tout l'idée. Non, une fois que je suis pris dans l'élaboration de mon histoire et des personnages, la seule chose que je cherche à faire, c'est de les pousser au bout du destin que je leur ai prévu, plus ou moins, même si je planifie peu. Et c'est surtout faire en sorte que là où je vais peut-être tomber sur des scènes compliquées à écrire, parce que violentes, parce que sanglantes, ou parce que la sexualité devra y être...
frontale.
Exposée ou exhibée, je ne sais pas comment le dire, reste après le travail de l'écriture. Ingrid parlait tout à l'heure de l'écriture. On ne peut pas se contenter de raconter une histoire, même si c'est le premier des plaisirs, un plaisir très, en tout cas chez moi très enfantin. Reste quand même l'écriture. Il n'y a qu'elle qui peut... donner la bonne distance entre le sujet dérangeant qu'on aborde, forcément, la sexualité, la mort, la cupidité, enfin, toutes ces choses-là, et l'effet que ça peut produire sur un éventuel lecteur. Il n'y a que l'écriture pour ça.
Vous avez rencontré, justement, des passages plus difficiles à écrire que d'autres, vous, Ingrid Astier, de votre côté?
Ah oui, c'est même pire que ça. Je pense que c'est le roman qui aurait pu me tuer, au sens physique du terme, au sens de l'épuisement, de la dépense.
Lequel? Le dernier?
Le dernier, oui, Haute Voltige.
Haute Voltige, hein,
vraiment. C'est autant le petit éloge de la nuit qui est au rond-point actuellement, au tête du rond-point. Ça a été vraiment très, très, très fluide, très, vraiment jubilatoire à écrire. Mais là, à chaque fois, Haute Voltige, je me disais, mais je n'y arriverai jamais. Déjà, j'avais prévu que ce soit un roman court. J'avais dit au directeur de la série noire, voilà, celui-là, il est vraiment, je le sens très bien. J'étais en train de bâtir le prochain. Et j'ai tout arrêté parce que j'ai vraiment eu un coup de foudre pour cette histoire à raconter, qui est inspirée du cambrioleur du musée d'art moderne de Paris. Ensuite, justement, l'imaginaire a tellement pris la main que c'est presque indécelable, cette trace maintenant du vrai cambrioleur. Et parce que j'ai préféré lui faire voler, plutôt que le musée d'art moderne de Paris, dans des œuvres d'Enki Bilal. Je trouvais que c'était bien plus intéressant en termes d'émotion. Et donc en allant vraiment dans l'atelier d'Enki Bilal aussi pour m'imprégner de ses gestes, de sa façon de peindre. Enfin, et puis finalement travailler l'excitation de mon personnage. Hein. Il faut bien comprendre que la visée, c'est pas le copier-coller de la réalité. Évidemment non. C'est vraiment de justement travailler le désir qu'on a de bâtir une scène. Et ça, c'est très important.
Alors, je voudrais revenir, parce que vous venez de donner un indice de votre méthode de travail, c'est l'immersion. C'est-à-dire vous allez véritablement sur le terrain, comme un détective. Par exemple, pour Angle Mort, vous étiez allé dans un centre de déminage, vous aviez rencontré des flics, vous aviez rencontré des braqueurs. Pour Haute Voltige, vous avez mis au point ce travail d'immersion encore une fois. Ça a commencé à partir de quel roman d'ailleurs, ce travail de documentation, de documentaire en fait?
Alors, c'est tout sauf de la documentation. Parce
non,
que
non, non, c'est vraiment aller sur le terrain.
Voilà, la documentation, c'est ce que je déteste le plus. Si on met des dossiers, en fait, j'ai l'impression d'un seul coup d'être un comptable de mon imaginaire et vous me feriez mourir. Enfin, je pense que je résiste pas 10 minutes dans la pièce. C'est... parce que j'ai besoin, c'est ce que je vous disais, j'ai grandi en pleine campagne,
ouais.
J'ai avec le jeu, et j'ai besoin d'espace, j'ai besoin que ça respire. C'est finalement ce terrain, déjà, ça me fait sortir de chez moi. Et puis, ça travaille ce désir, parce que ça me fait rencontrer des gens qui vont donner la légitimité de l'imaginaire, vous voyez? Parce que pour moi, on plaisante pas avec une histoire. C'est pas parce que on va bâtir une histoire qu'on doit raconter des histoires. Vous voyez, il y a une grande différence. Mmh. Et je prends ce travail-là très au sérieux. Et c'est pour ça que ben, les scènes de boxe de Haute Voltige, elles ont été travaillées avec un vice-champion de France de boxe. Donc, il m'a vraiment entraînée pour qu'on soit dans ce côté aussi percutant de l'écriture. C'est sérieux. Vous voyez, on badine pas avec la fiction, vraiment, quoi. La scène d'échec.
Jusqu'à vous mettre en danger, par exemple.
C'est ce que j'avais fait avec les braqueurs. Hein. C'était quand même vraiment la ligne rouge. Hein.
Qu'est-ce que vous aviez fait de pire avec les braqueurs?
Ça, c'est évidemment tout ce qu'on peut pas dire.
Vous avez participé à un braquage.
Non, quand même pas.
C'est ce que je voulais savoir.
On renie pas ses valeurs, mais de prendre des risques, effectivement, je sais ce que c'est que de prendre des risques pour son imaginaire. Ça montre aussi que c'est de l'engagement, vous voyez. On parle souvent de l'engagement en termes d'idées, mais non, c'est vraiment aussi l'engagement d'une vie, d'un corps et d'une langue.
Stéphane Père, vous travaillez de cette façon? Vous avez une méthode, vous, de travail, justement?
Oui, mais...
Pas la même.
Pas la même. En fait, je comprends tout à fait ce qu'Ingrid dit, raconte et la façon de l'expérimenter ça, mais moi, je suis pas du tout dans cette sensation-là. Je suis pas dans l'immersion. Moi, mon travail, c'est plus des histoires, des rencontres que j'ai eues, effectivement. Bon, un peu comme Ingrid, à travers mon travail, je rencontre des gens qui sont
forcément
respectables, fréquentables et d'autres moins. Mais l'idée, c'est plutôt d'être, au contraire, dans la captation de comment pense tel ou tel personnage, et ensuite d'être complètement dans quelque chose d'intuitif.
Et vous, Hervé Lecor, vous avez une méthode de travail? Des consultants? Des indics?
Je n'ai aucune méthode. Ouais. L'immersion, non, parce que j'invente tout le temps des personnages qui sont tellement dangereux que je n'ai pas du tout envie de m'en approcher. L'écriture du roman me suffit amplement. À imaginer ce que tel ou tel personnage est capable de faire ou d'endurer dans les situations que j'invente, donc de toute pièce, même si évidemment je me nourris d'articles de presse, de faits divers,
sûr,
tout un tas de trucs qui m'imprègnent à longueur d'année évidemment, et qui finissent par mûrir, par s'assembler pour fabriquer une vague idée de début de roman. Voilà. Et après j'improvise beaucoup, beaucoup.
Ingrid Astier, vous avez fait du théâtre? Vous l'avez même enseigné, donc je pense que ça joue aussi dans votre façon de travailler sur le territoire.
Oui, il y a vraiment ce côté acteur studio. Et puis, donc là, je vais jouer dans quelques jours à Dieppe aussi une pièce que Karel Prugnot m'a demandé d'écrire qui s'appelle Ultima Ratio. Ultima Ratio, c'est l'arme des THP, les tireurs de haute précision. Donc, c'est pas du tout une pièce sur les snipers.
Elle sourit en disant ça, c'est vraiment...
c'est pas une pièce sur les snipers, mais c'est que je suis vraiment passionnée par la précision.
Avez porté un récemment?
Oui, parce que j'ai visité pour le travail et les gendarmes
PGM,
sont équipés.
Hein, voilà.
Les gendarmes sont équipés du Ultima Ratio, qui est effectivement le fusil en vogue.
Voilà, absolument. Et c'est une pièce sur la dérédiction du couple, sur comment on peut se massacrer à table quand on est juste en train de manger comme ça. Et comment ça peut très très vite virer. Et donc là, je vais aussi la jouer, effectivement. Et pour moi, c'est très important de me mettre dans la peau de mes personnages. Si je les sens pas de l'intérieur, il y a un côté artificiel qui va très vite arriver et qui va faire que j'aurai pas de plaisir. Donc c'est pas du tout contradictoire. C'est pas parce que je vais m'immerger que je vais être finalement terrorisé par un modèle qui va surimprimer au personnage. C'est au contraire parce que je vais m'immerger que je vais vraiment sentir où est la marge de liberté de ma création. Et s'il y a bien, encore une fois, une chose qui importe pour moi dans l'écriture, c'est la liberté. C'est de savoir exactement où est-ce que je peux aller et de me donner les moyens d'y aller. Donc par exemple, en travaillant aussi la partie d'échec de Haute Voltige avec un vice-champion de France d'échecs aussi, pour qu'il n'y ait pas un moment où je me demande comment il réagit, quelle est sa mentalité, que tout soit incorporé et devienne finalement mon naturel.
Sur France Inter, il est 23h44, voici un message alerte enlèvement.
Vicente, 5 ans et demi, 1 mètre environ, cheveux châtain courts, yeux marrons, porteur de lunettes de vue, vêtu d'un haut de pyjama avec logo Cars et d'un caleçon bleu, a été enlevé le 29 mars 2017 à Clermont-Ferrand par son père Jason Lopez, individu de type méditerranéen, yeux marrons, cheveux courts noirs et porteur d'une barbe courte. Il circulerait dans un véhicule BMW ou Mercedes de couleur noire dont l'immatriculation débuterait par les lettres VP ou VB et comportant en fin de plaque les chiffres 63 du département du Puy-de-Dôme. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même, appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr.
On retrouve Laurent Goumard pour le nouveau rendez-vous. Ses invités Stéphane Père, Ingrid Astier et Hervé Lecor.
Tout de suite, Bonobo. Ouais, c'est un drôle de nom, un peu excitant quand même quand j'y pense. C'est le nom plutôt d'un DJ anglais, un des plus cotés du moment, un pionnier du down-tempo, Break Apart. Break Apart, c'est signé Bonobo dans le NRV.
Un new rendez-vous?
Oui.
Non. The new rendez-vous.
Oui, The New Rendez-vous ce soir fait sa série noire avec trois romanciers tous invités à la 13e édition de Quai du Polar à Lyon. Ça va commencer vendredi. Ce soir avec nous Hervé Lecor pour Prendre les loups pour des chiens aux éditions Rivage, Ingrid Astier, Haute Voltige chez Gallimard, Stéphane Père, Élastique Nègre chez Fleuve Noir Édition. Et alors pendant la chanson, on a assisté à un échange hallucinant entre Ingrid Astier et Stéphane Père.
Benoît Lagana. Hervé Lecor est témoin de tout ça, comprend pas ce qui se passe dans le plateau parce qu'on a une grande discussion entre Stéphane Père et Ingrid Astier sur le poids déjà d'une arme, le fait qu'il faut bien le connaître, et apparemment vous n'étiez pas d'accord sur l'arme en question.
Non, j'ai dû me tromper, effectivement, elle a raison.
C'était quoi alors, Ingrid Astier, de quoi parliez-vous?
Non, on parlait en fait que l'Ultima Ratio, donc qui est une arme vraiment de précision, c'est la Rolex du fusil, hein, c'est une arme qui ne peut pas être considérée comme une arme qu'on va porter à l'épaule comme ça, parce que en fait c'est fait pour tirer avec précision. Donc il faut obligatoirement que ce soit sur son bipied, parce que en fait pour tirer à 200 mètres dans une pièce de 2 euros et qu'il y ait vraiment cette régularité du tir, eh ben il faut la stabilité.
Donc vous avez fait du tir aussi.
Ah oui, ça faisait partie de l'exercice.
Pendant le disque, vous disiez c'est très important de connaître bien les armes. Quand on écrit...
Mais je dirais tout, c'est-à-dire si vous allez parler d'un pêcheur à la mouche, il faut aussi savoir quelle est la gestuelle d'un pêcheur à la mouche. Pourquoi mentir sur ça? Vous allez déjà tout inventer. Vous allez inventer l'histoire, la sensibilité. C'est là que vous allez vous faire plaisir. Donc après, vous n'allez pas réinventer le geste d'un pêcheur à la mouche. Ce serait ridicule. C'est pas un pêcheur relancé, quoi, vous voyez.
Comment vous comprenez ça, Hervé Lecor?
Ah ben je le comprends parfaitement. C'est que il y a des moments où, si on parle des armes, il y a des moments où on est obligé de se renseigner très sérieusement pour savoir quelle est leur puissance d'impact, leur précision, leur calibre, etc. Pour mon précédent bouquin qui était Après la guerre, où j'avais des scènes de combat en Algérie, je me suis renseigné effectivement sur les armes, les mitrailleuses montées sur les half-tracks et des choses comme ça, sur les pistolets mitrailleurs qu'utilisaient les militaires. Toutes ces choses-là, j'avais besoin de savoir, par exemple, ce que donnait un tir de mitrailleuse calibre 12 à 200 mètres, quoi. Savoir si elle était capable, par exemple, de couper un type en deux ou des choses comme ça. Donc j'ai eu les réponses à mes questions et j'ai pu alors écrire ces scènes-là, sans quoi je n'aurais jamais pu imaginer les scènes. Et je les ai imaginées, à partir de témoignages et choses aussi que j'avais entendues, mais je n'aurais jamais pu imaginer les scènes d'embuscade, de combat que j'ai pu décrire. D'un autre côté, pour le dernier bouquin, j'ai moins besoin des armes à feu. Juste à un moment donné, j'ai un pistolet qui passe d'une main à l'autre et qui va servir plus tard. Sinon, des fusils de chasse. Là, j'ai moins besoin de me renseigner sur la marque, le calibre, le nombre de cartouches dans le chargeur, etc.
Stéphane Père, pour Élastique Nègre, est-ce qu'il y a fallu vous documenter très précisément sur quelque chose de très particulier, comme là, par exemple, une arme, pour faire avancer votre récit?
Non, c'est ce que je vous disais, j'ai préféré ne pas trop me documenter. Après, le cadre, je le connaissais. Moi, mon roman, La Toile de Fond, c'est le trafic de cocaïne sur la zone des Caraïbes qui rebondit sur les îles, les petites Antilles et les grandes Antilles. Donc, j'avais une connaissance du trafic, je dirais le trafic de la rue, et puis aussi le plus grand trafic, celui qui va vers l'Europe, vers les États-Unis. Et qui fait déplacer des quantités gigantesques de cocaïne, par exemple. Moi, ce que je cherche en écrivant, c'est pas la réalité, c'est une forme de réalisme, mais c'est pas forcément ce degré de précision là. En fait, je me sens vraiment dans une grande
Mais c'est votre
latitude.
Premier roman encore, c'est pour ça, ça va peut-être venir au fur et à mesure. Comment ce roman a-t-il été perçu en Guadeloupe?
J'en ai aucune idée. Le roman sort en France métropolitaine. Et j'imagine dans les dom-toms, je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant. J'ai pas eu de vrai retour de la part de lecteurs. J'ai eu le retour d'un lecteur quand même par internet, parce que ça c'est génial. Tout à coup, moi je découvre qu'il y a des lecteurs qui ont lu le bouquin, qui s'en sont emparés, qui ont aimé des personnages et qui vous le disent aussitôt sur les réseaux sociaux, sur internet. Donc ça c'est vraiment vraiment chouette, quoi. Et quelqu'un qui a habité quelques années à Fort-de-France, dans un quartier où effectivement le trafic de crack sévissait, et a eu un impact formidable sur la population, sur la société, sur les familles, sur les individus, et qui m'a dit avoir retrouvé Vraiment, il a retrouvé ce qu'il a pu rencontrer quand il était travailleur social dans ces quartiers-là, au contact justement de jumpy, de gens qui étaient craqués et qui partaient complètement en sucette. Et ça, ça pour moi, c'est important. C'est important d'avoir effectivement quelqu'un du terrain. Je suis jamais allé dans ce quartier-là. J'ai une connaissance qui est ma connaissance empirique, je dirais, du trafic. Mais il a eu ce retour-là, et ça, je suis très satisfait d'entendre ça.
Benoît. Hervé Lecor, votre prochain livre, j'ai cru comprendre que ça se passait en 1871, à Paris. Ça va être quel cadre, quel contexte, quelle histoire?
On quitte Bordeaux.
C'est bien faire de l'anticipation, mais oui, je suis déjà dedans. Non, ça se passera à la fin de la Commune de Paris, pendant ce qu'on appelle la Semaine Sanglante. Et là où j'en suis, de mes bonnes intentions, c'est de raconter donc une histoire criminelle, une intrigue criminelle dans le chaos qu'a été l'invasion de la capitale par les troupes versaillaises, donc pendant 8 jours à peu près.
Et aller sur cette temporalité-là, ça vous permet quoi? On sait que ça va vous permettre quoi, justement?
Ça va me permettre de bien m'amuser à écrire, déjà, parce que pour moi, le plaisir d'écrire passe avant toute chose dans cette activité-là. Voilà, écrire.
Ouais, mais j'imagine quand même que cette période doit avoir un rapport.
Cette période
doit dire quelque chose.
Elle m'intéresse d'abord parce que la Commune de Paris est une belle révolution, malgré son échec sanglant, et politique aussi. Mais c'est une belle révolution.
C'est une période qui a été largement commentée durant cette campagne présidentielle.
La Commune de Paris?
Bah oui, j'ai l'impression que régulièrement, c'est revenu.
Ah bon, c'est marrant, c'est pas les échos que j'ai, moi, de la campagne présidentielle.
Oui, non, mais bien sûr. Il y a d'autres choses que l'on commente au jour le jour.
J'ai plutôt l'impression de voir passer des cadavres dans les caniveaux, mais bon. Puisqu'on est quand même, c'est quand même à ce niveau-là que ça se situe pour l'instant.
Oui, mais très bien habillé, des cadavres.
Mais pourquoi la Semaine Sanglante? Parce qu'en plus, puisqu'on parle de la période actuelle en termes de politique, la Semaine Sanglante, c'est aussi une défaite. C'est aussi, je vais sûrement, j'en suis au début, je vais probablement mettre en scène des personnages qui seront dans la défaite et dans la désillusion et dans cette espèce de mélancolie terrible des vaincus. Et donc c'est aussi l'une des couleurs, en plus du côté feuilletonnant que ça aura forcément, puisque vu la période et vu l'envie que j'ai d'écrire ça, mais ça sera, c'est l'une des couleurs que j'ai envie de donner au bouquin. Mais j'en suis, je le répète, au tout début et tout peut changer.
De votre côté, Ingrid Astier, vous allez vous infiltrer, vous immerger dans quel dossier?
Moi, j'avais déjà commencé, vu que je me suis interrompue pour écrire Haute Voltige, mais j'avais commencé en fait mon immersion avec l'anti-gang, avec la brigade de recherche et d'intervention.
Donc ils vont vous retrouver?
Et ben oui, ils vont me retrouver, mais j'ai pas du tout regretté mon détour par la brigade de répression du banditisme.
De votre côté, Stéphane Père, vous êtes sur un autre roman?
Je pense que j'aimerais continuer à explorer cette zone des Caraïbes, du sud des États-Unis, parce que il y a énormément de choses à engranger en tant qu'auteur. Il y a beaucoup de force, je trouve, dans les histoires familiales, pas simplement la délinquance et la criminalité, mais aussi dans la population qui habite ou qui traverse, qui voyage à travers ces îles. Donc voilà, j'aimerais bien continuer un petit peu dans ce sillon, mais c'est beaucoup trop tôt. Mon roman ne fait que sortir.
Eh bien, on vous donne rendez-vous tous à Quai du Polar. Ça va commencer vendredi à Lyon jusqu'à dimanche prochain. Je rappelle Hervé Lecor, Prendre les loups pour des chiens aux éditions Rivage. Ingrid Astier, Haute Voltige, c'est chez Gallimard. Et Stéphane Père, Élastique Nègre, chez Fleuve Noir Édition. Merci à vous trois.
Merci.
Et on va finir se énerver avec l'univers d'Austral, la canadienne préférée non pas de Benoît Lagan, mais de Sonia Leglen. Et hier soir, elle dansait dans le bureau sur ce titre, et c'est contagieux. Ostra dans le NRV, Sonia Reglen a encore bien dansé. En concert, elle sera tout près de chez vous avec un Trianon à Paris le 31 mars. La programmation, bien sûr, est signée Jean-Baptiste Audibert. Le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. Ce soir, la réalisation était signée par Sonia Leglen et Juliette Medeviel. Préparation Virginie Rouzic, Alexia Lacour, Benoît Lagan, Marie Mougin. Demain, on reprend notre rythme, notre marathon, 22h minuit. Mais on ne sera pas à Paris, non. Adieu les sunlights du studio 621. Alors on sera où? Un indice chez vous. Eh oui, Trom, on sera en direct dans les salons de la Villa Médicis à l'occasion des 60 ans du traité de Rome avec Valli, avec Christophe Bourseiller, avec plein d'invités. On prend rendez-vous, alors buonasera, a domani.